France Inter. Simon Le Baron, le 7-10.
Mercredi 10 avril. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le projet de loi sur la fin de vie présenté en Conseil des ministres.
Une aide à mourir qui divise, on voit ça en début de journal. Les négociations sur les seniors viennent de s'achever cette nuit sur un échec. En Russie, des milliers de personnes évacuées à cause des inondations monstres. Et puis la mort d'un Nobel de physique mondialement connu, Peter Higgs, qui a donné son nom au fameux boson de Higgs.
Les invités de France Inter ce matin, Alexandra Ben Saïd, bonjour.
Bonjour tout le monde.
À 7h50.
C'est un homme de théâtre. Vous vous souvenez sans doute des 5 Molières pour sa pièce Edmond. Eh bien, dans 2 mois, ça n'est pas une scène qui l'attend, mais le pont d'un bateau spectaculaire. Alexis Michalik embarquera avec un équipage de personnalités sur un trimaran de 32 mètres pour transporter la flamme olympique de Brest jusqu'aux Antilles. Alors, Simon, à 7h50, on parle d'aventure et d'excellence française.
Et on sera au rendez-vous à 8h20, une réforme explosive, celle de la fonction publique. Le ministre qui en a la charge, Stanislas Guérini, viendra la présenter dans le grand entretien de la matinale. On attend vos questions au standard d'Inter. Et à 9h20, Mathilde Serrel reçoit Alain Chamfort.
France Inter.
C'est la grande réforme sociétale du second quinquennat d'Emmanuel Macron et elle est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Le projet de loi sur la fin de vie, dont les grandes lignes inspirées de la Convention citoyenne ont été présentées par le président lui-même il y a quelques semaines. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Le texte prévoit 4 critères pour se donner la mort.
Oui, il faudra être majeur, capable d'un discernement plein et entier, victime de souffrances physiques ou psychologiques qu'aucun traitement ne soulage et atteint d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, 6 à 12 mois. Des critères susceptibles d'évoluer au cours du débat parlementaire et au fil du temps. La Belgique a finalement autorisé l'euthanasie des mineurs. Le Canada a supprimé le critère du pronostic vital engagé.
Et ce texte, Maxence, sera bientôt examiné par une commission spéciale à l'Assemblée. Avant d'être débattu dans l'hémicycle à partir de fin mai, on sait qu'il divise. Quels sont les points de crispation?
Alors, 3 éléments animent les débats pour l'instant. La collégialité de la décision souhaitée par Emmanuel Macron, mais dans les faits, un seul médecin signera la prescription létale. Responsabilité bien trop grande, estime une partie de la majorité, qui se méfie aussi de l'exception d'euthanasie. Si le patient n'est pas capable de se donner la mort, le texte prévoit qu'un soignant ou un accompagnant puisse le faire. Un fils, une fille, une amie, là aussi, quelle responsabilité et quel soutien psychologique. Il sera aussi question des délais, au moins 48 heures entre les 2 demandes explicites de suicide, 15 jours pour obtenir une réponse, 3 mois de validité pour la prescription. Est-ce trop rapide ou au contraire trop contraignant? La ministre promet beaucoup d'écoute, sans doute au moins 1 an et demi de débat. La PMA pour tout avait fait l'objet de 6 lectures au Parlement avant son adoption.
Maxence Lambrec, service politique d'Inter. Le projet de loi prévoit aussi un volet sur les soins palliatifs. Le gouvernement qui par ailleurs va reprendre la main sur l'assurance chômage après l'échec des négociations entre patronat et syndicats cette nuit. Malgré la prolongation des discussions, il n'y a pas eu d'accord sur l'emploi des seniors, les réactions d'Éric Courpotin de la CFTC.
En fait, dans l'accord, vous pouvez reprendre l'accord du début jusqu'à la fin. Quand vous avez évacué toute la sémantique de rappel, de tout le blabla, ce que moi j'appelle du blabla, qui ne sert à rien, qui occupe de l'espace et c'est tout, bon, l'accord il se résume à quoi là? 10 pages. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien. Et les propositions qui sont faites, bah, c'est que des restrictions de droits. Alors, on peut, dans une négociation, avoir des baisses de droits qu'une organisation syndicale va valider, mais à condition qu'il y ait quelque chose d'intéressant à côté, en faveur des salariés. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'équilibre d'un accord. Mais là, il est où l'équilibre ? Tout est à la baisse.
Éric Courpotin de la CFTC, le Premier ministre a déjà annoncé vouloir durcir encore les conditions d'indemnisation des chômeurs. Une nouvelle lettre de cadrage en ce sens va être bientôt envoyée aux partenaires sociaux. L'exécutif qui obtient aussi la réforme très controversée de la sûreté nucléaire grâce au vote cette nuit du Sénat qui acte donc la fusion du gendarme du nucléaire, l'ASN, avec l'expert technique, l'IRSN. Un peu plus tôt dans la journée, le projet avait été adopté à l'Assemblée nationale grâce aux voix de la majorité de la droite et grâce à la volte-face du Rassemblement national qui cette fois a voté pour.
Plus que 3 mois pour anticiper les Jeux Olympiques.
Et pour s'organiser en vue des restrictions de déplacement qui seront mises en place pendant toute la durée des épreuves et même une semaine avant le début de la cérémonie d'ouverture. On vous parlait hier sur Inter du QR code qu'il va falloir demander sur une plateforme à partir du 10 mai, indispensable pour circuler dans le périmètre. Et pour les professionnels du service à la personne, eh bien, on s'attend à avoir du mal à travailler, François Ventijou.
Entre les ponts fermés à la circulation et les zones où il faudra montrer patte blanche pour entrer, l'activité d'Aurélie Brunet va tourner au ralenti. Elle gère l'agence Adenior à Paris qui regroupe notamment des auxiliaires de vie.
Les salariés, elles vont s'adapter. Nous, on va s'adapter aussi, leur prévoir des temps de trajet plus importants entre les interventions. Mais les clients, eux, sont pas forcément hyper adaptables. C'est des personnes âgées et l'heure, c'est l'heure. Et quelquefois, ils peuvent être vraiment pas sympathiques en ouvrant leurs portes. Donc, ça va pas forcément être facile de se faire disputer en arrivant sur l'intervention.
Dans le même quartier, Frédéric Spira est le responsable de l'agence H-Door Service. Pour faciliter le travail de ses salariés, il compte faire une croix sur une partie des activités.
Pour la première fois en 20 ans, j'envisage de fermer l'agence pendant environ 15 jours. En tout cas, pour ce qui est de l'accompagnement véhiculé. Pour ce qui est des prestations d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie, on est en train de demander à nos clients, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils partent? Et ça a l'air d'être une tendance forte de quitter Paris avec toutes les problématiques qu'on risque de rencontrer.
Pour l'agence, ça veut donc dire moins d'argent dans les caisses. Sur l'été, le responsable s'attend à perdre l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires.
Dans la Drôme, l'adolescent de 15 ans poignardé dans le dos hier en fin d'après-midi à Romans-sur-Isère est mort des suites de ses blessures. Inconnu de la justice, sans casier judiciaire, il avait été agressé hier dans le quartier de la Monnaie pour un motif futile selon les premiers éléments de l'enquête. À Mulhouse, un procès au fort retentissement médiatique aujourd'hui puisqu'il concerne la famille Horter, pilier du club de natation de la ville qui a vu passer de nombreux champions. 4 personnes de la famille, Lionel Horter, l'entraîneur, son épouse ainsi que son frère, président du club, et leur mère, ancienne vice-présidente de la Fédération française de natation, comparaissent pour détournement de fonds chiffrés en centaines de milliers d'euros, des dizaines d'infractions comme le fait d'avoir fait payer des frais personnels par le club. Comme le retour des hirondelles en ce moment, elles annoncent le printemps sur nos étals des marchés. Les asperges, la France en a produit 26 000 tonnes l'an dernier, pas assez pour la demande. On en importe donc de Belgique, de Hollande et d'Espagne, alors que la culture est rentable. Et pourtant, les surfaces cultivées d'asperges reculent de 7% dans notre pays, Agnès Soubiran.
Au printemps, Véronique Granger et son mari Régis arpentent tous les matins leurs 4 hectares d'asperges à Tesson en Charente-Maritime.
Plus il fait chaud et plus elle pousse vite. Elle peut prendre jusqu'à 2 cm par jour.
Et ce légume fragile doit être ramassé à la main rapidement.
Si elle se colore à la lumière, ben nous, ça ne nous intéresse pas. Après, elle est toute verdâtre ou violette. Et nous, on veut que ça soit une asperge bien, bien blanche.
D'où la nécessité de recruter des saisonniers.
Il y a des gens qui vont dans les vignes l'hiver chez d'autres propriétaires. Et puis après, qui viennent chez nous faire les asperges, qui repartent après, par exemple, aux cueillettes de pommes ou des choses comme ça. Quoi. On arrive à retrouver des fidèles. Mais tous les ans, quand même, nous avons besoin de renforcer l'équipe.
Dans le sud-ouest, la coopérative Maïsadour tente, elle, de convaincre des agriculteurs de consacrer quelques hectares à la culture des asperges.
C'est une des cultures les plus rémunératrices. On peut tirer beaucoup de revenus d'une petite surface. Un hectare d'asperges vaut 3 ou 4 hectares de grande culture.
Lucie Jemin, responsable légumes frais.
Ça permet d'accueillir un enfant qui souhaite s'installer sur l'exploitation. C'est ce qui génère le revenu complémentaire sans avoir besoin d'acheter du foncier, sans avoir besoin d'agrandir les exploitations.
Dernier atout, l'indication géographique protégée, décrochée par les asperges des sables des Landes, qui garantit un meilleur prix de vente.
En Guadeloupe, les sites archéologiques partent à la mer. C'est l'alarme du conservateur régional à cause de la montée du niveau des océans et du recul du trait de côte. 160 sites archéologiques sont menacés, une quinzaine déjà léchés par les eaux. On sait qu'on ne pourra pas tout protéger, dit le conservateur.
Après des années de négociations et de compromis, les députés européens se prononcent sur la politique migratoire de l'Union.
Un vote à suspense pour savoir si le pacte sur la migration et l'asile sera adopté. Il prévoit un filtrage obligatoire des migrants arrivant aux frontières européennes avec base de données communes, placement, rétention dans des camps, le temps d'examiner leurs dossiers. Le pacte prévoit aussi des mécanismes de solidarité pour aider les pays où arrivent de nombreux exilés. Nous sommes en direct de Bruxelles dans une demi-heure. En Russie et au Kazakhstan, le fleuve Oural sort de son lit et l'eau qui continue de monter met en danger de nombreuses localités. Les autorités s'attendent à un nouveau pic aujourd'hui. Plus de 10 000 maisons inondées rien qu'en Russie. Dans la ville d'Orenbourg, au bord du fleuve, le maire enjoint les habitants à évacuer. Ne perdez pas de temps, leur dit-il. Reportage sur place de notre correspondant en Russie, Sylvain Tronchet.
Pour rejoindre les quartiers inondés d'Orenbourg, il n'y a plus que deux énormes camions capables de rouler dans presque 2 mètres d'eau et de traverser les zones plus sèches pour arriver jusqu'à la maison qu'Elena et son mari ont abandonnée il y a 3 jours.
Combien de temps sommes-nous restés ? 1 heure et demie ? C'est monté de 10 cm de la hauteur d'une marche de l'escalier. L'eau monte vite, vite.
Ils récupèrent quelques affaires. Leur voisin Igor constate les dégâts sur sa maison.
Quand on l'a acheté, on pouvait voir sur les briques jusqu'où l'eau était montée lors de la dernière crue. Nous avons surélevé les fondations de 25 cm. Je pensais que c'était la hauteur critique. Je le pensais, mais non.
La crue de l'Oural est historique en raison d'une arrivée extrêmement rapide du printemps, explique Anton.
Il y a quelques jours, je portais un manteau d'hiver et maintenant, on peut se promener dans la rue en t-shirt. Avec ce changement brutal de température, la neige a fondu très vite et l'eau a commencé à monter dans les réservoirs où se trouve Orenbourg.
Certains habitants ont exprimé leur colère devant la lenteur de la réaction des autorités, ce qui leur a valu cette réponse du ministre des situations d'urgence.
L'évacuation a été annoncée il y a une semaine. Les gens n'ont rien fait. Ils ont cru qu'il s'agissait d'une blague. Ce n'est pas une blague.
Quant à Vladimir Poutine, il ne se rendra pas sur place, mais il se tient informé sur le Kremlin. Orenbourg, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et puis en Géorgie, la population une nouvelle fois dans la rue contre un projet de loi sur les agents de l'étranger directement inspiré d'une loi russe. 8000 personnes dans les rues de Tbilissi hier. Le parti au pouvoir pro-russe avait pourtant fait marche arrière sur ce même texte après les protestations monstres de 2023. Il a donné son nom à une particule élémentaire, le boson de Higgs, clé de voûte de la structure fondamentale de la matière. Le physicien Peter Higgs est mort en début de semaine. Il avait 94 ans. L'université d'Édimbourg dit de lui qu'il était vraiment doué et que sa vision et son imagination ont enrichi notre connaissance du monde, Guillaume Fariol.
Surnommé la particule de Dieu, le boson de Higgs est considéré comme la clé de voûte de la structure fondamentale de la matière. Il est tout autour de nous, infiniment petit, à l'origine d'un champ comme une sorte de colle qui donne une masse aux autres particules et donc à tout ce qui nous entoure. Comment expliquer ce phénomène simplement ? Difficile de répondre, admettait Peter Higgs lui-même. Le scientifique a d'abord déduit théoriquement l'existence de ce boson en 1964. Il a fallu attendre 2012 pour confirmer sa présence grâce à l'accélérateur de particules de Genève. Je crois que nous l'avons, annonce le patron du CERN à l'époque devant un parterre de scientifiques dont Peter Higgs. Je n'imaginais pas que cela arriverait de mon vivant, commente le physicien. L'année suivante, il reçoit le prix Nobel de physique. Injoignable, c'est une ancienne voisine qui lui apprend dans la rue qu'il vient de décrocher la récompense scientifique suprême.
En sport, la rencontre sera sous haute surveillance à cause des menaces terroristes. Le PSG dispute ce soir son quart de finale aller contre Barcelone. Dans les autres quarts disputés hier, pas de vainqueur. Tout se jouera au match retour 3-3 entre les Real Madrid et Manchester City. Match nul de partout aussi entre Arsenal et le Bayern Munich. Et puis l'équipe de France féminine a battu la Suède 1-0 hier soir et s'envole en tête de son groupe de qualification de l'Euro 2025.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom, épisode 3 de notre série de la semaine sur la famille. Et ce matin, on s'intéresse aux parents solos.